French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Expatrié. Nom. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
Choc culturel, donc t'as trois phases. À la phase, tout est génial. Oh waouh, les size, kiddie size qui font géant, tout est génial, tout est grand. Costco, j'ai acheté pour 400 balles au début, un chariot rempli. J'ai des photos, tu vois, et je documentais ça, mes potes, ils adorent, tu sais, sur Instagram. Je racontais ma vie ici. Et puis la deuxième phase, c'est je déteste tout. Ça m'est arrivé au bout d'un an, je pense. J'en ai marre, tout est nul. La troisième phase, c'est ça y est, tu t'adaptes. Quand tu reviens en France et que tu reviens aux États-Unis après avoir passé en France, tu te sens chez toi aux États-Unis, presque, tu vois.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Salut, salut, et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice et l'hôte du podcast, et au nom de toute l'équipe de French Expat, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Aujourd'hui, je vous parle depuis Boston. Boston, c'est justement là que j'ai rencontré mon invitée. Tuen vit en banlieue de Boston, donc. Elle est née dans le sud de la France, a grandi en région parisienne, au sein d'une famille vietnamienne, dans une communauté multiculturelle. La culture, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Je sais pas si on peut vraiment parler de choc, en tout cas, on parle en profondeur des cultures qui s'entremêlent et s'additionnent dans la vie de Tuen. De Montigny le Bretonneux à Boston, en passant par Versailles, Neuilly ou encore le Danemark, Tuen nous raconte, avec pas mal d'humour et beaucoup de transparence, comment chacune de ses vies l'a forgée en la femme qu'elle est aujourd'hui. Tuen, que ses amis surnomment Tutu les bons tuyaux, est déterminée à être heureuse dans la vie. Et elle nous raconte aujourd'hui comment ses multiples vies l'y ont menée. Avant de laisser place à ma rencontre avec Tuen, je vous rappelle qu'à la toute fin de l'épisode, je vous livrerai quelques indices sur l'épisode de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Ceinture, direction... Boston. Vendredi matin, mon fils vient de partir à l'école avec son papa, je suis toute seule à la maison et ça pèle. Il est tout juste 8h du matin, je suis en train de finir mon petit café et j'attends mon invité du jour. Mon invité s'appelle Tuen. Et Tuen, je l'ai rencontré par les réseaux sociaux, comme quoi. J'ai emménagé dans le quartier dans lequel je vis aujourd'hui il y a un peu plus d'un an. Et au moment où je suis arrivée dans le quartier, j'ai dû poster une story sur Instagram du parc du bout de la rue. Et elle m'a dit « Ah bah tiens, on habite juste à côté l'une de l'autre ». C'était rigolo, nos enfants ont à peu près le même âge et donc on a commencé à discuter comme ça. Tuen m'impressionne énormément. Elle est maman de deux enfants de moins de 3 ans et belle-maman de deux autres enfants. Elle est arrivée aux États-Unis il y a un peu moins de 10 ans. Et si vous lui demandez ce qu'elle fait dans la vie, elle va vous dire qu'elle est « stay at home mom », ce qui veut dire qu'elle est maman au foyer. Mais je vais la faire parler un petit peu aujourd'hui et vous allez comprendre sa définition d'une mère au foyer qui est juste complètement hallucinante. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Exceptionnellement aujourd'hui, mon invitée vient à moi. Elle devrait arriver dans quelques minutes.
Salut.
Dieu qui me demandait, mais puis comment avec Félix?
Et comment t'as 8h?
8h,
ouais.
Je suis retrouvée un petit peu de d'arola.
Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup.
J'en ai une chaussure.
Oh, ça va. Franchement, le tapis est dramatique.
Tu veux un café?
Ah oui, volontiers, ouais. Il fait un peu froid.
Tu aurais un petit peu de crème ou de lait?
J'ai pas de crème, j'ai du lait, ouais.
Voilà.
Ouais. Tu me fais?
Non, c'est bon.
Non.
Non, j'ai tout seul. Ah,
bon, comment tu te sens? Ça va?
Ouais, ça va.
Voilà, ça t'y parle?
Ouais, est-ce que tu m'entends? Ah, t'as du beau matos?
Je sais pas si c'est très beau, mais en tout cas, ça marche bien.
Ouais, c'est bien. Bah, déjà, Thuyen, c'est vietnamien. Donc, j'ai grandi en France, donc on dit Thuyen. En vietnamien, c'est Thuyen. Parce qu'en fait, c'est une langue monosyllabique. Un mot, un son.
Ah, ok.
Et une signification, voilà.
Et ça veut dire quoi, là?
Ça veut dire... alors, Thuyen, ça veut dire ruisseau, rivière. Et en fait, mon prénom en entier, donc c'est Ngop Than Thuyen, ça veut dire... Ruisseau vert comme le jade. Alors, ma mère était très poétique. Ouais. C'est le prénom d'une chanteuse très connue au Vietnam. Donc, c'est un peu et qui s'est fait plein de trucs de chirurgie. Donc à chaque fois, pour les gens qui connaissent, ils sont là. Ah ouais, t'as le prénom. Ouais. Voilà, la génération de mes parents et ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est très poétique les prénoms vietnamiens.
D'accord.
Et donc en américain, donc c'est Thuyen. Et donc mon mari a trouvé le truc pour leur faire dire mon prénom. Il dit Think of a Japanese currency and number two.
Thuyen, ah ouais. Bien, ouais.
On fait comme on peut, hein, comme on peut.
Ouais, c'est bien.
Donc voilà, je m'appelle Thuyen, Thuyen.
Tu viens d'où en France?
Je suis née à Toulouse.
Ah ouais.
Ouais.
J'étais persuadée que t'étais du coin de Paris, moi.
J'ai grandi, effectivement, dans la banlieue parisienne. Mm-hmm. Mais je suis née à Toulouse, en fait, il y a une grande communauté de Vietnamiens.
Ok.
Et donc mes parents se sont rencontrés en France, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, bon, ça arrive. Donc, on a fait un bref séjour aux Ulysses. Et après, on est allé en banlieue parisienne, enfin plus près des Yvelines. Moi, j'ai grandi à 50 ans Yvelines, Montigny-le-Bretonneux exactement. Bon, c'est classique, classe moyenne. Mais j'ai grandi avec pas mal de copains divers et variés. C'est marrant parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait, ce qui me manquait le plus niveau bouffe, c'était pas forcément la bouffe viette parce que t'en trouves ici. Mm-hmm. C'était la bouffe sénégalaise.
Ah ouais.
Enfin, ouais, très bizarrement. Et donc, j'avais ce craving de tiep, en fait. Donc, c'est un plat sénégalais, base de riz, voilà. Soit riz poisson, riz bœuf et tout. Parce qu'en fait, j'ai grandi, j'ai fait mon lycée avec... j'étais au lycée Henri Bergson à Montigny-le-Bretonneux, qui n'existe plus d'ailleurs. Et j'avais des copines sénégalaises qui habitaient derrière le collège. Et donc, j'allais toujours... Alors, je me sentais vachement proche, tu vois, dès qu'il y avait des fêtes, la fin du ramadan, ou quand ils cassaient le ramadan, je venais squatter et tout. Donc, j'ai appris à dire bonjour et tout, en Wolof. Donc, je me sentais très proche de cette communauté. Mm-hmm. Parce que je me dis, waouh, ils sont vachement proches, ils font plein de trucs ensemble, ils habitent les uns à côté des autres. Moi, je n'avais pas forcément ça. Là, on habitait, parce qu'on habitait dans des pavillons, nous... Mm-hmm. Donc, c'était plus des grandes maisons, les uns à côté des autres, mais sans se connaître. Ma mère m'a toujours parlé en vietnamien, même si elle met des mots français. Et puis bon, on a toujours répondu en français avec mes frères, à son grand, voilà, grand désespoir. Et mon père, lui, a switché très rapidement en français. Donc, on a toujours parlé en français avec mon père. Mais ce qui est drôle, parce que ma mère, tu vois, aujourd'hui, quand elle est au Vietnam et que parfois on se parle au téléphone et qu'elle veut pas qu'on comprenne, elle me parle en français. C'est un peu la langue secrète.
Ah, ouais, ouais.
Alors qu'elle continue à me parler en vietnamien, sinon. Mais tu vois, il y a des langues sur lesquelles on peut jongler, donc ça, c'est assez marrant. Ouais, j'avais pas d'accent quand je parlais anglais, alors que je trouve qu'aujourd'hui j'en ai un. Bon.
Ah ouais.
Je l'effaçais vachement plus. Bon, après, c'est peut-être la langue et tout ça. Mais quand j'avais effectivement 15-16 ans, j'avais pas du tout d'accent français. Je l'effaçais complètement. J'arrivais. Bah, bref, c'est pas resté. Puis je pense qu'avec l'âge, puis le fait de montrer que tu viens aussi de France, ça me dérange pas du tout.
Mm-hmm. Tu cherches pas à effacer, quoi.
Je cherche pas du tout à effacer parce que justement, les gens sont intrigués. Tu vois, ici à Boston, un asiatique avec un accent français, mais why? Why? Mais donc tu parles français? Bah oui.
Et donc, du coup, tu es française. Enfin, je sais que tu comprends le vietnamien, mais tu le parles aussi?
Je parle un petit peu, je parle comme un enfant de 5-7 ans, quoi. Tu vois. Je l'ai parlé beaucoup. En fait, quand tu me commences à me parler, ça revient.
Ouais.
Tu vois, je suis allée beaucoup de fois au Vietnam. Enfin, j'y suis allée quand même très tard dans ma vie. Je suis allée quand je suis. En l'an 2000.
D'accord.
Donc, mes parents ont mis beaucoup de temps à y revenir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, bref. Et puis, et une fois que j'y suis retournée la première fois, on est revenu beaucoup de fois. Parce qu'on n'avait pas forcément d'attache. On avait, si, un peu de famille, mais de la famille éloignée, puisque, comme je te disais, la diaspora, ils étaient un peu partis. Et puis, même mes parents aussi, peut-être qu'ils ont eu beaucoup de mal à revenir. Mm-hmm. Et donc, ouais, quand je suis revenue plusieurs fois, non, j'étais à l'aise. Enfin, j'ai emmené quand même Jay, mon mari, récemment, c'était en 2015. Mm-hmm. Et bah, c'était moi qui faisais la traductrice, quoi. Donc, voilà, je me débrouille bien. Ouais. Après, tu vois, par exemple, là, j'étais au supermarché il y a deux semaines. Il y a un supermarché asiatique à Morden. Donc, tu as des gens qui ne parlent pas vietnamien, mais il y en a qui parlaient vietnamien parce qu'il y a certains qui étaient là, je crois, des Chinois. Ils ne me comprenaient pas quand je parlais anglais. Donc, il me dit Vietnam, Vietnam, je dis yes. Donc, il m'oriente vers le mec qui parle en vietnamien. Et là, je bloque. Comment faire? Alors, il faut que je trouve le mot pour dire aubergine, tu vois. Parce que je cherche, j'adore ces trucs-là. Ce qui me reste, c'est des aubergines pickled. C'est des petites aubergines blanches qui sont marinées, que tu pourrais faire toi-même, bon, bref, que j'aime bien. Et que donc, je cherchais ça. Et, donc, oh, et là, le blanc, et le mec, donc, j'explique. Je cherche un truc un peu pickled, donc d'ocho. Et tout d'un coup, il me dit, non, mais comment? Il me répond, il me dit, mais comment ça se fait qu'une Viette parle pas Viette, tu vois?
C'est dur quand même.
Ouais, ouais, bah voilà, ouais, parce que j'ai pas la tête du client. Donc. Et tu vas pas expliquer, non, mais en fait, c'est une bonne femme, donc je suis née en France, tu vois.
Ouais.
Les gens s'en fichent. Hein. Ouais. Donc, je pars des rayons, et tout d'un coup, le mot me revient. Donc, cafard, le mot aubergine me revient. Donc, je reviens vers le mec, et je lui dis, est-ce que tu sais où sont les aubergines pickled? Il me dit, ah ouais, bah ça veut être là, sinon on n'en a pas. Ah ouais, ouf, j'ai sauvé le truc. Mais
sauvé enfin, l'honneur.
Ouais, mais bon, c'est quand même assez honteux, donc je le pratique pas assez. Mais récemment, je t'avoue, tu sais, avec les podcasts et tout ça, je me suis remise. Tout le monde s'habille. Non, mais c'est vrai. Tout le monde s'habille pareil. Tu viens souvent, toi, au parc?
Le week-end, on vient pas mal, ouais.
Ah oui. Alors, on arrive à la sortie de l'école, là.
Ah oui, c'est vrai, ça finit à quelle heure, l'école?
Bah, je sais pas, 2 heures. Bah, ça dépend des écoles, mais je crois que c'est genre 2h20, 2h15, ça finit tôt en tout cas, trop tôt à mon goût. Bah, il commence tôt aussi, hein. Il commence avant 8h. Hein. Bah, regarde, parce que tu vois les school bus là.
Ouais. Comment il s'appelle ce parc?
Robin's Farm. Ouais. Ah non, je me demande l'histoire, j'y connais rien. Alors,
bon, c'est déjà pas mal.
Robin's Farm, voilà, et ça s'appelle. Robin's Farm. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je connais. C'est sympa d'y aller, c'est moins sympa quand tu y remontes parce qu'on avait dernièrement pour se taper la côte.
Surtout quand t'as les poussettes.
La poussette double, ouais.
C'est ce qui fait qu'on a une jolie vue sur Boston.
Ouais, ça c'est cool. On oublie, tu sais, franchement j'oublie que je suis à Boston parfois.
Ouais,
t'es dans ton truc. Tu cliques Agatha Moumoute
au micro. Oui, généralement
c'est ça. C'est ça, ça intrigue.
Elle est tellement belle
la vue. Là, ouais. En fait, faut que tu saches que c'est pas un peu par hasard que je suis arrivée aux États-Unis, c'est que j'ai aussi grandi en ayant été beaucoup, beaucoup de fois aux États-Unis.
D'accord.
En fait, ma famille, donc la diaspora vietnamienne, c'est un peu répartie partout dans le monde.
D'accord.
Et il se trouve que moi, j'avais beaucoup de famille aux États-Unis, côte Est et côte Ouest.
Ah ouais.
Des deux côtés. Côté maternel et côté paternel. Trop ma
bien.
Grand-mère paternelle était en Californie. Donc, ce qui fait qu'on, depuis l'âge de... Je me rappelle à l'âge de 6 ans, donc je me rappelle les voyages, donc je me dis, ah, tous les 3 ans, 86, 89, on allait aux États-Unis, donc on faisait le périple côte Est, d'abord, Pennsylvanie, ouais, les cousins, l'oncle et tante, et après, on se tapait le périple jusqu'à Californie,
d'accord.
Little Saigon, Orange County, donc les Vietnamiens, où on passait beaucoup de temps, et après, venue l'adolescence, c'est là où mes parents ont décidé de nous envoyer avec mon frère, donc passer nos vacances aux États-Unis tout l'été. Ok, bonne idée, tu vois Et en fait, quand tu fais ça tous les ans pendant 3 ans, alors que tous tes potes sont en France, voilà, donc c'est pas terrible.
Mais quelle bande d'ingrats, ces
adolescents. Ouais, mais en fait, non, mais c'est ça, mais c'est marrant parce que maintenant j'ai des adolescents, j'ai des stepkids. Bon, ils sont plus comme ça maintenant, mais il y a quelques années, quand il fallait aller en France, oh non, encore! J'ai dit, mais tu te rends compte que tout, il y a des enfants qui rêvent d'aller en France.
Oui, c'est clair.
Donc, je les comprends parce que j'étais pareil, tu vois. Et effectivement, tous mes copains, mes potes en France, ah, t'as trop de chance et tout. Ouais, mais en fait, vous vous rendez pas compte, on se fait chier. Non, mais c'est pas ça. C'est que on était chez ma grand-mère tante qui est un peu une moine. Et donc, elle savait pas trop comment nous gérer avec mon frère. Donc, tous les matins.
C'est pas super teenage friendly.
Bah non, mais elle est un peu monte, donc elle se lève le matin, elle prie, elle se lève à 5h, donc elle savait pas trop, elle a trouvé un truc qu'on aimait bien le matin, donc elle nous a acheté ça tout le temps pour le petit déjeuner, parce qu'on mange aussi salé le petit déjeuner au Vietnam, et donc tous les matins elle nous achetait des banh mi. Donc des banh mi. Alors ça c'est le sandwich vietnamien franco-vietnamien avec une baguette française mais réinterprétée avec plein de bonnes choses dedans, de cold cut, donc de salami, ouais, charcuterie vietnamienne avec de la coriandre, des pickles de carottes, de daikon et du pâté, du beurre. Enfin c'est assez bon, tu vois. Sauf que quand on mange tous les jours pendant 2 mois, parce que c'est ton petit déj, t'en peux plus. Mais c'est drôle parce que c'est resté. Et j'en ai fait, je dirais pas mon métier, mais j'en ai fait des pop-up encore récemment. Donc, ça fait partie de ta culture, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'a un peu traumatisée. Donc, donc voilà, donc j'ai passé pas mal d'été aux États-Unis avec les parents, sans les parents. L'année d'après, on est allé chez mon oncle. Mon oncle qui avait 3 enfants, donc des cousins, donc je suis assez proche encore aujourd'hui. Il y avait Tina, Tracy, Michael. Bah, Tina, elle était un peu plus grande, donc j'ai fait la transition où elle est partie vivre à la fac. Donc j'ai vu ça, ce truc d'aller à la fac, d'emménager. Et à l'époque, elle est allée à UCLA, donc t'imagines dans les années 80. Fin des années 90, et on parlait beaucoup d'argent déjà à l'époque, mais on était en dollars, c'était 20 000 dollars, ce qui me semblait énormissime pour des études. Et bon, aujourd'hui, tu regardes à Boston, la moyenne, c'est le double. Mais c'était hyper intéressant d'avoir bougé et de payer cette somme-là, enfin, de comprendre cette culture américaine, en fait. Donc donc ça, j'ai grandi avec ça et tout. Puis c'est marrant parce que parfois quand je me pose ou quand on me demande ah mais comment ça se fait que tu arrives aux États-Unis, je pense que c'est pas par hasard en fait. En fait moi je suis la seule d'autres aux États-Unis. Ouais. Donc j'ai un frère en France, un frère au Vietnam, un demi-frère aussi au Vietnam, mais bon j'ai pas vraiment grandi avec lui. Donc c'est un peu dur pour ma mère, bon, elle a pas vu mon fils qui a 1 an et demi. En même temps, enfin c'est dur, mais en même temps, enfin je sais pas, j'ai grandi comme ça donc. Si tu veux, cette diaspora-là, c'est classe, enfin, elle est voulue et involontaire en même temps. On a grandi avec, donc on sait que notre famille...
Elle est au quatre coins du monde, quoi.
Ouais, elle est au quatre coins du monde. Enfin, je vois mes petites nièces au Vietnam qui me demandent « Mais pourquoi tu n'habites pas avec ta maman en France ?» Tu vois, elles ne comprennent pas ce truc-là parce qu'elles, elles vivent avec leur mère et leur grand-mère. Ouais. Voilà, j'ai grandi avec la culture française, donc nous, on veut partir, quoi.
Tu en veux un petit peu de café, Jean ?
Non, ça va, moi.
Ouais, il est un peu froid, je vais juste le faire.
Bah, tu dois en entendre des trucs...
C'est pour ça que je continue, c'est parce que j'aime bien.
Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien aussi écouter les gens.
Ouais ? Bah, surtout des histoires riches, comme ça, c'est cool.
Thuyen me parle de son envie de quitter le cocon familial, mais finalement c'est quand même à l'âge de 27 ans qu'elle a décidé de prendre son appart. Elle s'est mise en colocation avec des amis dans Paris. Des amis qui sont encore très proches d'elle, puisque chacun de ses colocataires est désormais le parrain d'un de ses enfants.
J'ai habité dans cette coloc pendant 7 ans, d'accord, avant de partir pour les États-Unis. Voilà.
Alors attends, parce que du coup, Jay, qui est ton mari à l'heure actuelle, il arrive quand dans l'histoire ?
En fait, dans une autre vie, je faisais du marketing, principalement des événements, de la communication. C'était une grosse boîte, un truc un peu classique dans la finance, mais l'informatique dans la finance. Je suis arrivée là un petit peu par hasard, en fait, par les événements. J'ai fait le CELSA, donc c'est une école à la base qui est connue pour le journalisme, mais c'est aussi une école de com. Qui est affiliée à Paris 4, donc c'est une école gratuite, sur concours. Je me rappelle, c'était à la maison des examens à Arcueil. Tu sais, c'est une...
C'est vrai que j'ai passé des examens.
Voilà, donc tous les gens qui passent des examens pour les grandes écoles...
Ah, on s'en souvient.
On s'en souvient, donc horrible. Tu vois, j'étais pas du tout motivée. Je fais le truc, machin,
sur mon point de vue un peu éco, bref. Donc j'arrive deuxième sur liste d'attente, t'imagines. Donc ça veut dire quoi? Merde, qu'est-ce que je fais? Coup de bol. On m'appelle le premier jour en disant voilà, vous êtes deuxième sur liste d'attente. Donc premier jour d'école, vous irez pas, mais normalement, en général, ça devrait être bon. Il y a quelqu'un d'autre qui va devoir se libérer. Ouais, donc je suis arrivée au CELSA, donc c'est à Neuilly, habitant en 50 ans en Yvelines, donc j'avais pas très bien calculé mon temps de trajet. Donc j'arrive mon premier jour qui était le deuxième jour. Putain, j'arrive à la bourre, évidemment, parce que j'avais pas compris que ça mettait presque une heure et demie donc, pour aller à l'école. Et ben j'ai compris ma douleur, je suis arrivée à la gueule enfarinée avec mon j'avais un backpack, parce que mes potes se rappellent, me disaient le backpack tortue, j'avais un sac à dos, parce que j'adorais déjà j'ai toujours adoré les sacs, les sacs à dos, donc hyper masculin en forme de tortue. Les gens m'ont vu, le prof m'a fait, ou la prof, je ne sais même plus, je crois que c'est une prof, dehors. Je suis arrivée, je crois que 5 minutes en retard ou 15 minutes en retard, je ne sais plus, dehors. Mon premier jour, qui était le deuxième jour, t'imagines, et devant tout le monde.
Donc, bienvenue.
Donc, reconcentration, je vais arriver mon deuxième jour, qui est le troisième jour d'école. Donc là, j'étais méga fichée. Je suis arrivée hyper à l'avance, cette fois-ci, dans la salle d'amphi. J'ai essayé de sympathiser avec il y a une nana qui était là et tout. Et donc, fichée, tu vois, la nana qui arrive toujours à la bourre. Et ça m'est resté, le truc de toujours à la bourre. Ouais. Always late, c'était mon nickname. Donc mon premier jour, c'était le troisième jour d'école. Et donc, du coup, j'étais fichée, quoi. Donc, la fille qui arrive de banlieue en retard. Donc, là aussi, un autre monde, des gens qui avaient fait des prépas. Non, CELSA, c'était sympa. C'était surtout parce que les copains, en fait, tu découvres. Moi, je suis allée au Danemark, vivre à Copenhague en Erasmus. Donc, ça, c'était hyper cool aussi. Les seuls, avec ma copine Daphné, les seuls, enfin, tout le monde était branché plus vers les États-Unis, l'Angleterre. Donc, ça, c'était surpris, tu vois. Mm-hmm. Après, il y avait l'Espagne, ça me branchait pas trop. J'avais fait allemand pendant 2 ans, comme seconde LV2. Ouais. En fait, on avait trouvé une bidouille parce que le CELSA, c'était avec Paris 4, la Sorbonne, on est allé voir, chercher les accords avec Paris 4, chercher les facs, on a trouvé celle de Copenhague, on a écrit un mail directement au prof qui a dit oui, et là je suis allée le montrer, on est allé le montrer avec Daphné à Paris 4, d'accord. Et là vous pouvez pas nous refuser, parce que Paris 4, par rapport au CELSA, c'est énorme, et quand on dit Paris 4 de la Sorbonne, ça tape, donc on pouvait pas nous refuser en fait. Donc on a réussi à partir au Danemark, encore avec une bidouille, et c'était très sympa, il faisait super froid, on était pauvres, on n'avait pas d'argent, une petite bourse du mérite, et puis une petite bourse en plus, parce que ça coûtait tellement cher qu'on avait, je crois, 100 euros, parce qu'on était passé à l'euro à l'époque, 100 euros au lieu des 50 par mois. Donc c'était c'est le gros truc, donc voilà, il fait froid, voilà. Mais c'était sympa, moi j'aimais bien, j'avais pris des cours, on pouvait prendre des cours, les cours qu'on voulait, donc j'avais pris des cours de films,
d'accord,
donc des films, des mainstream and counterculture in the 60s, donc j'ai découvert la nouvelle vague.
D'accord, excellent.
Les films français. Donc, ouais. Tu vois, tous les lundis, on se tapait tous les films avec Daphné, tous les films de la Nouvelle Vague. Et voilà, j'ai toujours adoré les films. Et là, c'était un truc en plus. Ça, j'avais pris des courses au New York avec un prof, je crois, monsieur Levin, professeur, enfin, un nom de New York, quoi, juif de New York. J'avais adoré. Et j'avais pris un autre truc, je ne sais plus quoi. Enfin, bref, on habitait en coloc avec une Danoise qui mangeait toujours des schmeubreux de pain, tu sais, le pain noir, là, avec une petite tartine. Avec du concombre. On était là, oh mon Dieu, elle mange que ça. Nous, on se tapait tous les dépliants pour trouver les bons trucs chaque semaine, pour acheter du poulet congelé, pour acheter du riz. Donc c'est là où j'ai appris, Daphné m'a appris, qui est d'origine, qui est moitié togolaise. Certes, elle avait fait un stage au Sénégal, elle m'avait appris à faire le mafé, tu sais, la sauce cacahuète. Elle m'a appris aussi à faire le rougail saucisse. Bon, on avait le rice cooker et puis voilà. Moi j'avais toujours la bidouille, j'adorais la télé, donc il me fallait absolument une télé, donc j'ai dû négocier une télé, voilà, on s'est tapé à porter et tout. Bon, les Danois parlent anglais, donc c'est hyper simple, donc on n'a pas du tout appris le danois, très très peu, mais on aimait bien cette vie-là en vélo, en fait, la vie en vélo, tout en vélo. Et ça nous je pense que ça m'est resté un petit peu, j'ai regretté après avoir quitté le vélo, mais ça c'était cool, cette vie-là. Donc voilà, c'était ma petite expérience à l'étranger.
Combien de temps? 6 mois?
Ouais, c'était un semestre, quoi.
Pour prendre une photo.
Ah oui, bah vas-y.
Tu peux prendre avec
la vue, vas-y. Le son, comme disent les
Canadiens.
Thuyenne me raconte qu'à son retour en France, elle doit écrire son mémoire. Mais prise par le tourbillon des stages et de ses premiers jobs, c'est finalement 3 ans plus tard qu'elle soutiendra enfin son mémoire auprès de son école qui perdait un peu patience. Après un premier job dans un grand groupe français, dans les relations presse, la voilà dans une entreprise qui l'embauche pour faire de l'événementiel à l'échelle internationale. Une révélation professionnelle, mais pas que.
On travaillait basé de Paris, mais avec des gens de Londres, basé à Paris, mais avec des gens de Belgique, de l'Espagne, enfin un peu partout. Et ça, j'ai vachement appris. J'ai rencontré beaucoup de gens à l'international. Et puis, la boîte française qui se fait racheter par le requin américain, là, j'ai été... Dans plusieurs cas, souvent, c'est tout ça, tu te fais virer. Mais moi, j'ai été propulsée et j'ai eu des chefs anglais. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est comme... Je dirais pas que j'ai habité à Londres, mais c'est comme si j'avais habité... J'y allais une fois toutes les 2 semaines pendant 3-4 ans, tu vois. Donc, en ayant des boss à Londres, etc. Donc, j'avais, pour ceux qui connaissent la carte blanche à Eurostar, dans les tout premiers, donc c'était sympa, tu vois, je voyais les stars... comment ça s'appelle, Claire Chazal. Tu vois, c'est les stars dans le SAS, là, ouais. VIP. Bon, maintenant, je crois que c'est plus accessible, mais bon, j'avais ce truc-là, c'était très sympa. Et donc, effectivement, de ce côté très européen, c'est devenu très international. Et donc, j'ai commencé à bosser plus avec les Américains. Ils voulaient quelqu'un en Europe parce qu'ils voulaient développer l'Europe, mais moi, je faisais tout le marketing pour eux aux États-Unis. Donc, c'était culturellement, c'était un peu difficile. Donc, ils m'ont fait venir plusieurs fois aux États-Unis. C'est comme ça que je suis venue apprendre, entre guillemets, observer comment on faisait les événements à Disney, par exemple.
D'accord.
Là où j'ai rencontré mon mari la première fois. Moi, je ne me rappelle pas, mais lui s'en rappelle. j'ai fait des trucs aussi à Porto Rico. Enfin, tu vois, voir comment aux États-Unis on fonctionnait d'un point de vue marketing. J'adorais commander comment on mange. En France, on prend du temps et on fait attention à ce qu'on mange.
Aux États-Unis, t'as des temps. On doit manger.
Ouais, voilà. C'est très millimétré, entre guillemets. Tu sais ce que tu dois avoir, les pauses café, les temps de déjeuner, etc. Et ça, je l'ai fait, effectivement, partout dans le monde. J'ai eu cette chance-là. Donc, je travaillais beaucoup en Europe, Moyen-Orient. Donc, j'ai fait Dubaï, Abu Dhabi. Même si je travaillais dans des lieux où j'ai jamais été, il y a ce aussi, parce que il y avait aussi l'Afrique. Il y a ce côté culturel qui était très important. Tu vois, par exemple, quand tu dessines, tu prévois les floor plans, donc les maps avec les salles.
Les plans d'aménagement.
Ouais, ouais, les plans d'aménagement. Par exemple, à Dubaï, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre les salles où tu peux prier. Parce qu'on vient te demander systématiquement.
Ah, salle de conférence.
Voilà.
D'accord.
Il faut organiser ça par rapport à ces temps-là. Et moi, j'adorais faire ce côté un peu recherche. Par rapport à l'étranger, ouais. Tu vois, faire attention. Donc, souvent, j'avais un contact sur place qui n'était pas forcément marketeux, mais une sorte de office manager ou une liaison quand je ne pouvais pas visiter le lieu. Parce que moi, j'avais cette expertise-là par rapport aux autres mondes, enfin, ce qu'il fallait, comment tu suis dans le monde,
ouais.
Les guidelines, mais eux, ils avaient cette sensibilité-là. Tu vois, par exemple, les temps de pause, attention, ne pas les faire à certains moments parce qu'ils vont chercher leur gosse. Enfin, tu vois, des trucs que tu ne peux pas savoir si tu n'habites pas le culturel. Donc voilà, donc je fais ça avec les États-Unis pendant un certain temps. Et puis, c'est comme ça que je rencontre Jay. Mais quand je le rencontre, je suis à mille lieues de savoir que voilà. Lui, c'est un client, en fait.
D'accord.
Donc, parmi 300 autres clients, la première année, mais moi, je ne me rappelais plus. Il me dit, mais tu sais qu'on avait partagé une margarita. Ah bon ? Donc, ouais, lui, il m'avait vu, je n'avais pas vu. Bon, bref. Et puis, l'année d'après, je reviens en tant que l'officiel event manager. Parce que la première année où je suis venue en observatrice. Mm-hmm. Donc, discrètement. Donc, j'ai vu comment on faisait ça. Et puis, voilà, c'est venu comme ça. On était à différents moments de notre vie. Et puis, la vie a fait que... on a sympathisé, on est resté en contact. Lui, il était en plein divorce. Il est venu en France, ça s'est mal passé. Vraiment mal passé.
Il est venu en France pour le boulot, pour te voir ?
Non, pour me voir. D'accord. Ça s'est très, très mal passé. Quand tu sors quelqu'un de son contexte, il est venu à Paris, il n'avait jamais voyagé, en fait. Donc, pour te dire qu'il a fait, à part Cancun, tu vois, il l'a fait une fois.
Ouais.
C'était pas quelqu'un qui voyageait à l'époque. Il est venu en France, sorti de son contexte, ça s'est hyper mal passé. Je suis là, mais merde,
qu'est-ce qui marchait pas ?
Ben en fait, j'ai pas vu la personne.
Tu l'as pas reconnu, quoi.
Ouais, enfin. Et puis surtout, j'ai vu quelqu'un qui était pas dans son élément. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il a rien à faire là. Il allait pas du tout avec ma vie à Paris.
Il y était pas de place non plus dans ta vie à Paris à ce moment-là ?
C'était surtout ça. Et puis la vie a fait que moi, j'ai dû aller à New York pour le boulot. Et puis à ce moment-là, comme ça s'est mal passé avec Jay, il m'a dit en gros,
ciao, quoi. Et donc, je devais retourner à New York. Et puis, il est venu me voir, en fait, à New York. Et là, ça... l'étincelle.
Ah ouais.
Ouais. Et là, c'est reparti.
Que toi, t'étais passé à autre chose ?
Ouais, moi, j'étais, can we be friends ?
Ouais, ouais.
Horrible. Tu payes 2000 balles le billet d'avion. En fait, c'est à New York que ça s'est reconnecté. À l'époque, il avait encore une moto.
D'accord.
Et il est venu me voir en moto. Donc, il a fait 4 heures, je crois, 3 heures et demie de moto pour venir me voir à New York. Moi, j'avais un événement hyper high level, donc j'étais assez stressée parce que c'était un moment où, il fallait remercier des gens, c'était beaucoup, beaucoup de budget, donc j'avais pas mal de pression. Donc, j'ai bossé, je l'ai vu, ça s'est hyper bien passé. Je suis venue avec un petit cadeau de France, il adore le coq sportif, tu vois. Mm-hmm. Tu disais ce qu'il a perdu entre temps, bref.
Bravo.
Ouais, et puis ça a reconnecté et on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe.
Ouais.
Il y a un truc.
Ça vaut le coup qu'on creuse un peu plus.
Ouais,
quoi.
Ouais. Et puis la vie a fait que je te disais, j'ai les larmes.
Oh, bah alors.
Non, parce que je suis. La vie a fait que. Parce qu'entre temps, j'ai perdu une amie très proche.
D'accord.
Je m'attendais pas à y aller dans ton truc.
Non. T'inquiète pas.
Les amis qui vont écouter, ils savent. Bref. En fait, on a vécu du coup beaucoup de choses ensemble, mais très, très rapidement, tu vois.
Avec Jay.
Avec Jay, ouais, des trucs. Bon, moi, la vie a fait que je voulais partir de l'entreprise, et puis ça s'est fait. Mm-hmm. Tu sais, je suis partie avec un paquet. Je sais pas pourquoi je pleure, j'ai un peu la tête qui tourne. Non, c'est en fait.
Tu veux un verre d'eau, tu veux quelque
chose ? Non, c'est. Non. Quand j'ai dit on a fait beaucoup de choses ensemble, en fait, on a vécu des choses assez intenses en très peu de temps.
Ouais.
En fait, j'ai perdu une de mes meilleures amies très peu de temps après. Enfin, bref, ce qui s'est passé, c'est que...
Après séjour à New York.
Non, après séjour à New York, en fait, donc il s'est passé des... Voilà, on s'est dit, ouais, on va essayer de creuser le ouais. truc et tout. Et puis moi, ce qui s'est passé grâce au boulot qui m'a donné un chèque, j'ai voulu changer de vie. Et du coup, toujours un père qui, tu sais, qui te pousse à faire des études, etc., qui me fait, ouais, tu devrais refaire des études. Donc, je dis, ah, ok, bonne idée, tu vois. Parce qu'entre les jobs, souvent, ils me poussaient, ouais, refais des trucs. Donc, j'avais déjà fait des trucs de management. C'était pour occuper le temps. Et je dis ça à Jay, à l'époque, qui m'a fait un long mail, un long benchmark sur les écoles à Boston.
Ah.
Avec combien ça coûte. Et là, c'est tant de la maison, ça, c'est tant de la maison. Tu sais, toutes les écoles prestigieuses que tu connais. Voilà, Harvard, MIT, machin, truc. Bon, bah ok, je montre ça à mon père, il me dit « Ah ouais, c'est bien détaillé, pourquoi pas ?» et tout ça. Donc je négocie mon licenciement, et puis je dis bye bye à tout le monde, et je dis « Bon bah, je vais venir une semaine à Thanksgiving, faire le shopping des écoles, on sait jamais pourquoi. Mm-hmm. » Et j'arrive et je m'organise ma petite semaine, je vais visiter les écoles et tout, puis entre-temps, mon ancien chef, que j'adorais, mon ancien N+2, avec qui je suis restée en contact, qui avait d'ailleurs venu à mon mariage, lui me dit, Thuyen, toi, je te vois faire du design dans les hôtels exotiques. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi ? En fait, parce qu'il m'a...
spécifique.
Voilà, parce que déjà, c'est en anglais. Et puis, il m'a associé avec ce truc, parce qu'on a fait... J'ai eu la chance d'organiser un événement à Phuket, en Thaïlande. Mm-hmm. Un truc assez prestigieux, dans un hôtel de luxe, exotique, avec plein de gens pour remercier les commerciaux.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, il m'a associé avec ça, d'accord. Donc, design. Ah ouais, bonne idée. Donc, je fais ça sur Google, tu vois. Je tape design, interior design, Boston. Et je tombe sur Massart. Qui est donc l'école Massachusetts College of Art and Design. Et donc, ça tombe bien, il y a une sorte d'open house quand je serai là. Je vais y aller. Donc, je fais tous les trucs. Donc, je vais voir Harvard. Oh, j'ai envie de faire Harvard. Je vais voir MIT. Oh, j'ai envie de faire MIT. Et le dernier truc, c'est Massart. Donc, ce n'est pas du tout business school, parce que j'étais dans un mood de création. Ouais. Et Jay me dépose à l'école et il me dit, je ne te dis rien, mais je pense que tu vas aimer. Bon. J'y vais et en fait... Pas du tout. Au début, j'avais trouvé ce petit programme sur Internet. J'étais assez curieuse. Il s'appelait Dynamic Media Institute. C'est des mots un peu magiques. Je regardais, je ne comprenais pas trop. Intersection entre art, science, technologie. Et puis, j'y vais et je me retrouve avec... alors, j'ai découvert ce que ça voulait dire, undergrad. Donc, ce sont des gens qui arrivent en sortant du lycée. Donc, ils ont 18 ans. Donc, je fais les portes ouvertes avec eux. Je me dis, merde, qu'est-ce que je fous là ? Attends, j'ai 33 ans à l'époque.
je vais reprendre des études avec des jeunes, merde. J'avais prévu de reprendre des études, mais je savais pas trop que ça allait être aux États-Unis. Mmh. Et surtout, je savais pas que ça allait être aussi cher et que j'allais dilapider les sous que j'avais dans un tour du monde, en fait. Donc, j'étais partie quand il fallait que je sois acceptée, il fallait que je fasse des lettres, des petits concours par-ci, par-là, d'anglais. Et donc, je me retrouvais, je me rappelle encore, avec ma copine Marion, on est partie en Inde. Et je me vois faire dans le train, tu vois, en Inde, ma lettre de motivation et tout. Donc, c'était assez marrant, toujours à faire des trucs un peu à l'arrache comme ça. Et je me trouve admise à l'école dans ce programme-là, donc, qui n'est pas un undergrad, mais un graduate program. Donc, c'est plutôt niveau pour faire un master. Et donc, voilà. Et j'aime bien, en fait, quand je suis venue visiter, parce que je suis revenue entre-temps, entre le Thanksgiving et le moment où je viens aux États-Unis, je viens 40 000 fois aux États-Unis, parce que l'amour fait que tu viens même que pour un week-end, tu vois. Complètement taré. Donc, tu t'en fiches, tu viens. Et du coup, j'en profite pour aller voir les gens, être motivée, passer le TOEFL. Et donc, je tombe amoureuse de ce programme. Et donc, je fais ça pendant 3 ans, ce master pendant 3 ans. Donc, j'arrive aux États-Unis. Non, parce que c'est pour ça que je dis les larmes et tout. Parce qu'en fait, tout se goupille à des moments. En fait, je perds une de mes meilleures amies 2 semaines avant de partir. En fait, elle a la méningite. Elle a mon âge, tu vois. Et puis, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on était en vacances en France avec Jay dans le sud de la France. Donc nous, on passait notre truc. Il venait me chercher, entre guillemets. Mm-hmm. Moi, je venais le présenter un petit peu à tout le monde en disant, il vient me chercher, mon prince charmant vient me chercher. Donc, au revoir. Et donc, du coup, Élise tombe malade du jour au lendemain. J'étais à Nice. En 24 heures, elle était partie. C'était horrible. Oh, ouais. Et ce n'est pas le genre de maladie qui arrive où tu pars et puis c'est pas un accident de voiture et voilà, c'est qu'elle a la méningite, donc un truc, tu découvres que en fait il y a un vaccin, tu vois, mais bon, pour les adultes, voilà, et tu te retrouves dans le sud de la France à devoir aller aux urgences toi-même, parce que tu es, comme c'était les semaines où je partais, on faisait plein de fêtes, et puis Élise était très proche, donc on faisait tous les jours, on se voyait avec des potes, etc. Et donc on s'était fait convoquer par l'agence de la santé régionale. Et on devait prendre les sortes de pilules ou je sais pas quoi. Enfin bref, qui te fait pisser orange. Et du coup, la méningite, on s'est retrouvés. Tu sais, c'est pas comme si t'avais un accident de voiture, la personne part, tu fais le deuil et tout. Là, la personne part, mais en plus, ça affecte tous les gens. Et tu dois remonter tout l'agenda de la personne les 10 derniers jours. Ce qui fait que moi, comme j'ai fait des fêtes de départ, et donc ça a affecté ma cousine avec ses enfants et tout, donc tout le monde s'est retrouvé convoqué, entre guillemets, appelé par l'agence. Enfin, ça a remué beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. On s'est retrouvé à aller faire le vaccin avec les copains. Assez étrange comme situation. Aller enterrer ta copine, aller gérer son appart avec sa mère, avec tous les potes qui étaient là. Et Jay était là à ce moment-là. Ouais. Donc, si tu veux, c'est vrai, je te dis, on a vécu des trucs assez intenses.
Ouais, en très peu de temps.
En très peu de temps, tu vois. Donc Jay est arrivé à un moment où toutes les amitiés se sont encore plus solidifiées avec les gens qui étaient là. Donc il les connaît bien, il est ami avec lui. Enfin, donc on est passé par ces moments tristes, mais par ces moments assez forts, quoi. Puis donc, je déménage aux États-Unis 2 semaines après avoir enterré ma copine. Et donc voilà, nouvelle vie commence. Nouvelle vie, sauf que 3 jours avant de partir, donc je fais ma fête de départ, etc. 3 jours avant de partir, Jay m'envoie un petit message. Je vais à l'hosto, truc, je suis aux urgences et tout.
Oh merde,
je comprends pas trop ce qui se passe, j'arrive pas à l'appeler. J'avais rencontré sa mère, j'étais en contact avec sa mère, ça s'était très bien passé parce que j'avais quand même fait le test. Et donc, non, j'appelle sa mère, qu'est-ce qui se passe? Personne n'arrive à le joindre. Non, mais monsieur, c'était cassé la cheville, 3 jours avant mon départ. Pour renforcer le truc, pour te dire qu'il s'est passé beaucoup de choses entre nous, donc t'as ça. Il s'est cassé donc 3 os, je sais pas exactement. Mais je me suis retrouvée 4 mois à faire l'infirmière quand je suis déménagée. Donc moi je déménage, donc j'ai le choc aussi du déménagement, de partir loin de ma famille, loin des amis. Toute seule, je connaissais vraiment personne à Boston. J'avais rencontré 2-3 contacts qu'on m'avait refilés, mais je connaissais vraiment personne. J'arrive et je fais nounou et infirmière. 4 mois.
Nounou, pourquoi ?
Parce qu'il n'y allait pas au boulot aussi, tu vois. Jay avait deux enfants d'un premier lit. Donc, il y avait aussi ça aussi à gérer. Bref, je suis sa seconde épouse. Donc oui, j'ai eu aussi la présentation aux enfants. Donc ouais. Je suis arrivée, quand j'ai déménagé, ils ne pouvaient pas venir me chercher. Il avait...
T'es arrivée quand même, du coup, avec quand même vachement de responsabilités, en fait, d'un coup.
Ouais, je suis devenue belle-mère.
Infirmière. Ouais, c'était hyper tout de suite.
Mais j'habitais dans la maison dans laquelle il a grandi et dans laquelle son ex habitait aussi. Mais il a eu l'intelligence de modifier la maison. Il l'a fait construire une autre chambre familiale et la disposition a changé. Donc moi, je suis arrivée avec beaucoup de bagages, entre guillemets, psychologiques, cette charge mentale dont les gens parlent. Donc c'est ça, donc je suis arrivée avec tout ça, avec le deuil en plus de la copine et tout. Enfin, ça m'a permis aussi, tu vois, d'être loin, de faire ce truc-là. Alors que d'autres copains étaient restés à Paris et puis il fallait refaire la vie, etc. C'était dur parce que tu sais, la nature fait que bon, ok, j'avais déjà perdu mes grands-parents, j'avais perdu les choses qui arrivent de la vie, naturellement. Mais perdre une copine qui est à ton âge, et du jour au lendemain, ça, c'était hyper chaud. J'imagine. Ça a été hyper traumatisant. Du coup, donc je suis arrivée faire l'infirmière, parce que lui, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas vraiment conduire. C'était la cheville gauche. Donc, il arrivait quand même à conduire, mais bon, bah, je me suis retrouvée avec lui, faire des trucs, genre, tu sais, louer un petit scooter, mais tu sais, tu mets ta jambe voilà, pour avancer, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez...
On voit ça beaucoup ici, d'ailleurs. Je n'avais jamais vu ça en France avant. Mais c'est comme une trottinette, en fait. Ouais. Tu poses ton tibia, en fait.
C'est ça.
Pour pas poser le
pied. Pour continuer à bouger. Bah, comme tu sais, par exemple, en France, quand tu vas au supermarché, je pensais à ce que je vais au supermarché, parce que tu as des trucs pour les handicapés avec
les paniers.
Ouais, où tu
en
vas.
En France, tu vois ça, moi j'ai déjà vu ça aux US.
Non, en France, tu vois pas ça, parce qu'en France, tu as des cartes prioritaires. Donc, tu as les gens, des caisses prioritaires, comme ça, ils y vont. Aux États-Unis, tu as les caisses prioritaires, mais en plus, tu as les chariots où tu peux t'asseoir. Ouais. Donc, on a utilisé ça et on allait chez les Costco, les Target avec ça. Et puis, ouais, gérer les gamins qui arrivaient le mercredi, parce qu'à l'époque, on avait la garde tous les mercredis, jeudis et un week-end sur deux. Donc, on les avait soit 3 jours, soit 5 jours.
D'accord.
C'était une organisation logistique. C'était hyper dur pour les enfants. Enfin, peu importe. En plus, avoir un papa qui est avec des béquilles. Donc, ouais, j'ai dû gérer ça. Gérer aussi aller à l'école.
Ça n'a pas été tout repos quand même, ton arrivée.
Non, c'était. Mais en même temps, moi, ça m'a occupée. Alors, aller à l'école.
Ça t'a permis de te mettre à fond, en fait, dans ta
nouvelle
vie.
Ouais, voilà. Donc, je suis allée à l'école. Le premier semestre, je me suis dit, tu sais, j'avais ma mentalité parisienne. Donc, je vais prendre les transports. Sauf que mes cours étaient le soir, enfin, en fin d'après-midi, parce que c'était beaucoup de profils, un peu comme moi, finalement, des gens qui avaient une autre carrière, qui travaillaient.
Et en fait, c'est où, Massard?
Ouais, c'est près des hôpitaux, tu vois, c'est près de Fenway. Ouais. Donc, c'est un peu chiant. C'est, pour y accéder, la Green Line, c'est un peu des années 1800, quoi. Ouais. Donc, horrible. Du coup, j'ai fait ça un semestre en me disant, non, mais je suis motivée, je vais faire ça en transport. Donc, tu prends la Red Line, puis la Green Line, tu mets 1h30. Mm-hmm. Quand c'est à 20h, t'as pas... c'est un peu chaud, quoi. T'es pas super motivé. Donc, ben, j'ai appris, on a fait une leasing en français de voiture. Mm-hmm. Donc, j'ai eu mon premier leasing de voiture, une Lexus hybride. J'adorais ça. Ça consommait pas beaucoup, c'était génial. J'avais mon permis quand même en enfant de banlieue. J'avais quand même mon permis à l'âge de 18 ans, donc je savais conduire. Et moi, je rigolais au début. Il allait en bas de la rue faire du sport et il allait en voiture, tu vois. Je me foutais de lui, tu vois. Mais alors que maintenant, c'est moi qui fais ça. Je prends la voiture pour aller en bas de la rue.
Enfin, faut quand même qu'on explique. En bas de la rue, c'est pas genre un truc à 50 mètres. On habite dans les Heights, qui veut dire donc en hauteur.
Dans les hauteurs, ouais.
Et donc, quand tu vas au club de sport dont tu parles, ton sport, c'est de remonter le truc, quoi. Enfin, de remonter.
Bah, c'est hyper chiant.
C'est hyper. Enfin, c'est vraiment hyper raide.
En fait, on fait pas mal de vélo, mais j'arrive. Enfin, je suis jamais. Je suis toujours à moitié motivée parce que j'aime bien descendre avec les gamins. Et alors, me remonter, c'est je marche. Je n'y arrive pas. Et mentalement, je suis pas préparée. Alors qu'on se fiche de moi, on fait maintenant, tu fais du spin class, tu fais du vélo et tout. Non, mais je fais pas. Voilà. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'ai compris aux États-Unis qu'il fallait faire quand même du sport pour se maintenir, parce que mon niveau de vie, mon lifestyle, mon style de vie a complètement changé, tu vois, entre prendre des kilos, manger différemment. Et puis mes copains se foutent de moi et je pense qu'ils comprennent pas, parce qu'en fait ici la nourriture est tellement différente. Ça part de la farine qui est enrichie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute des choses. Donc, ce qui m'a aidée notamment, et c'est pour ça qu'on a des connexions ensemble. Quand je suis arrivée, j'étais complètement paumée et je me suis rabattue dans la bouffe, faire moi-même les baguettes. Donc, j'avais des séries, tu pourras demander à Jay, où je faisais du pain tous les jours. Il n'en pouvait plus. Et donc, j'ai rencontré
en ligne, des gens comme Estelle Tracy, tu vois.
Qui était invitée de la saison 1, hein, d'ailleurs.
C'est vrai ?
Ah oui.
Bah, je manquerai pas de l'écouter. Et qui a fait son guide de survie. Puis j'ai vu comment elle aussi a progressé. Elle a fait ce truc avec le chocolat, etc. Et donc, moi, j'avais ce truc-là avec mon mémoire pour donc, les études que j'ai faites, avec le MFA en design, Master of Fine Art en design, autour de la bouffe.
D'accord.
Donc, j'avais ce truc-là parce que, justement, ce truc de choc culturel. Donc, tu as trois phases. À la phase, tout est génial. Oh wow, les sizes, kiddy size qui font géant, tout est génial, tout est grand. Costco, j'ai acheté pour 400 balles au début, un chariot rempli. J'ai des photos, tu vois, et je documentais ça, mes potes, ils adorent, tu sais, sur Instagram. Je racontais ma vie ici. Et puis la deuxième phase, c'est je déteste tout. Ah, j'en peux plus, rien n'est.
Ah ouais,
rien
c'est arrivé rapidement ça ou
ça m'est arrivé au bout d'un an, je pense.
D'accord.
J'en ai marre, tout est nul, j'en ai marre. Voilà, et puis après, la troisième phase, c'est ça y est, tu t'adaptes. Quand tu reviens en France et que tu reviens aux États-Unis après avoir passé en France, tu te sens chez toi aux États-Unis, presque, tu vois.
Qu'est-ce qui fait que tu te sens chez toi?
Bah, chez toi, c'est les gens avec qui t'es, hein, tout simplement.
Ouais.
En fait, quand je repartais de France, j'avais plus l'impression d'être chez moi. C'était ouais. Bizarre, tu vois. J'avais plus mon chez moi, alors que je voyais les potes, les mêmes potes et tout ça. Mais en fait, c'est la personne avec qui t'es qui fait que t'es chez toi, la famille, tu vois.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'un jour, je retournerai vivre en France. Je pense que c'est un grand projet... un lointain projet, qu'est-ce qui est à moyen, au long terme. J'ai fait tout pour, il est très sensible à ça, il a envie, à un moment donné, de vivre, et puis je le souhaite, de vivre cette expérience à l'étranger, comme moi, parce que parfois, il ne se rend pas compte. Moi, j'ai ce choc culturel constamment, tu vois. Ouais. Parfois, il se fiche de moi, pas que lui, hein, mais ouais. Parce que je prononce mal un mot. Parce que j'ai pas
comment
la bonne.
Comment ça, il se fiche de toi?
Non, mais ce que je prononce pas. Skewers.
Skewers.
Ouais, voilà, j'arrive pas à le. C'est les brochettes.
Skewers. Je crois que tu disais.
Skewers. Ah, skewers, tu vois. Donc, parce que j'ai pas forcément l'intonation dans le.
Ouais.
Et à chaque fois, je dis le jour où vous parlerez comme moi, je parle votre langue.
Moi, c'est comme ça que ça se finit, généralement, les engueulades.
Ah ouais.
Des fois, t'es mec, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je fais écoute, on a qu'à le faire en français si t'es pas content.
Non, mais c'est ça, tu vois. Ils se rendent pas compte. Je pense qu'ils ont un petit aperçu de cette charge mentale de vivre dans un autre dans une autre langue, parce que c'est ça, c'est vivre dans une autre langue, vivre dans une autre culture, c'est vivre dans une autre langue aussi. Quand on fait nos deux petites semaines en France, ça, il a pas encore ça. Je lui souhaite, parce que quand on passe deux semaines en France, c'est moi qui me tape toutes les traductions.
Ah, c'est épuisant.
Ouais, parce qu'à part commander. Bon.
En fait, du coup, t'es tout le temps dans la traduction, c'est difficile de rentrer dans les conversations, en fait.
Mon cerveau, il bug vachement.
Bah ouais.
Ma langue est fatiguée, parce qu'en fait, maintenant, je me rends compte, le fait de parler, là, je pense qu'après notre conversation, enfin mon monologue plutôt, je vais me rendre compte que je vais avoir mal à la mâchoire et à la langue, parce que je parle plus autant français qu'avant.
Ouais.
J'ai eu ce désir-là de parler français, plus depuis que j'ai des enfants, mes propres enfants, entre guillemets. Ouais. Bah, j'enseigne à l'école française ici, en l'after school, parce que justement, tu as ce truc de l'attrition du langage. J'ai appris ce mot-là.
C'est quoi l'attrition?
L'attrition de langage, c'est quand tu perds des mots de ta langue maternelle.
Ça nous arrive tous, hein?
Ouais, Jean-Claude Van Damme, tu vas faire Jean-Claude Van Damme. Je vous invite, c'est parce qu'en fait, c'est un truc de cerveau.
C'est une gymnastique qu'on sent.
Voilà, on fait cette gymnastique-là. Je suis encore plus fatiguée quand je suis en France, parce que j'ai ma famille qui me sollicite constamment. Alors qu'ici, je parle français aux enfants qui ne me répondent pas. Donc, j'ai deux petits-enfants, donc Bobby et Beckett, qui ont 2 ans et demi, 1 an et demi. Ils ne me répondent pas encore, voilà. Mm-hmm. Ils ne font pas des phrases en français. Mais donc, je ne parle qu'avec eux, ce qui fait que l'entourage apprend aussi en même temps. Mais c'est très limité, donc je n'ai pas des conversations. À part, aujourd'hui, le français, je le parle avec toi, le week-end avec les enfants, ouais, voilà, au parc. Et puis sur FaceTime, Facebook, ça ne dure pas plus d'une heure, quoi. Voilà. Donc j'ai ce besoin maintenant effectivement, de bien parler français, ne pas oublier.
Mm-hmm.
Et j'ai des copains qui me disent, ouais, t'as pas d'accent, mais t'as une drôle d'intonation parfois.
En français ?
What ? Ouais.
Bon, non.
En fait, ça dépend, peut-être le stretch mark, justement, cette intonation, enfin,
ouais.
L'accentuation de certains mots.
Ouais.
Je dis stretch mark, ça veut dire vergeture.
Oui.
Quoi. Tu vois, je mélange tellement. Même l'anglais, je mélange l'anglais et le français. Bref. C'est ça qui est horrible, c'est que tu parles aucune langue bien.
Oui, c'est ça.
Mais c'est horrible. J'ai honte.
Alors, tiens, d'ailleurs, puisqu'il fait pas très chaud, le nombre de gens qui disent « Ah non, mais moi, Boston, je ne pourrais pas, il fait beaucoup trop froid. »
Je pense qu'un quelqu'un ne connaît pas vraiment Boston s'il n'est pas venu un hiver. En fait,
Mais moi, j'ai mis du temps déjà à me couvrir. Hein. En tant que bonne française, j'ai mis du temps.
En ballerine dans la neige.
Ouais, tu vois, j'avais pas la bonne doudoune parce que j'étais encore dans mes trucs français, tu vois. Voilà, on n'avait pas ce qu'il faut. Donc, j'ai mis quelques années à bien comprendre les grosses bottes, bien. Enfin, voilà. Une fois que t'es bien équipé, il n'y a pas de souci. Puis, il y a plein de trucs à faire l'hiver et tout. Mais c'est vrai que quand t'arrives de France où t'as ta petite veste, ton deux petits duffel coat et tes petites ballerines, bon, bah ouais, non, t'es pas équipé. Et ça caille vraiment, quoi. C'est pas le froid. Ça fait mal, quoi. Et après, t'oublies un peu. Et puis, il faut trouver des choses à faire. Et j'ai un mari qui est un peu hyperactif aussi. Lui, il vient d'ici, les sports d'hiver. Donc là, j'ai déjà anticipé. Hein. C'est-à-dire que j'ai déjà la planche de snowboard qui a déjà été acheté en solde à la bonne saison. C'était avant Halloween qu'il fallait acheter tout l'équipement. Là, c'est foutu. Mais oui, c'est ça. Non, mais il faut s'y connaître. Alors, tu fais pas du ski ici pour la beauté des paysages. Enfin, en tout cas, dans le Massachusetts.
Non, mais si t'as vu les Alpes, c'est pas pareil.
C'est ça.
C'est pas très haut.
T'as pas le côté petit chalet, tu vois.
Il y a un truc qui est génial. Si tu vas dans le Maine, un peu plus haut, non, on va à Sunday River. Je sais pas si tu vas.
Je connais pas du tout.
Et en fait, c'est des resorts skiing qu'il y a. Donc en fait, tu rentres dans l'hôtel avec tes skis.
D'accord.
Donc la piste t'amène vraiment sur l'hôtel.
C'est vrai. Ah bah tu m'enverras ça. Je me suis mariée avec quelqu'un qui aime bien les sports d'hiver, donc.
Faire avec maintenant.
Donc voilà, son rêve c'est d'aller faire du snowboard dans les Alpes, qu'on ne désespère pas. Donc, alors je suis motivée, j'ai pris le Kindle, j'ai mis plein de livres en français que j'arrive jamais à lire parce qu'effectivement, je suis partie de ces gens qui ont
t'as deux enfants de moins de 3 ans quand même, enfin, pour mettre les choses en perspective.
C'est chaud,
et
quoi.
T'as deux jobs en même temps. Enfin,
le job, c'est voilà, enfin, plusieurs casquettes, mais ici, si tu veux, c'est normal, j'ai envie de dire, tu vois, c'est classique. Aujourd'hui, alors les gens me demandent qu'est-ce que tu fais comme job. Ben, j'ai pas vraiment de job. Déjà, mon frère, je pense à mon frère parce que c'est lui la dernière fois qu'il parlait avec ma copine devant moi. Hein, mais qu'est-ce qu'elle fait, Julienne, comme job aux États-Unis? Bah déjà les mères. En fait, je fais plein de trucs, mais j'ai du mal encore à me définir. Donc, quand il faut remplir les papiers, bon, moi je mets mon employeur officiel, c'est Lesley University. Donc, je suis faculty design, faculty. Donc, je suis prof. C'est marrant parce que maintenant, je pense vachement en termes de couleurs, parce que je suis prof de couleurs. Donc, tu vois, je vois l'image mentale. Bah ouais, puis je pense alors complementary colors. Quelles sont les couleurs? Donc je pose des questions à mes étudiants. Quelles sont les couleurs? Quelles sont les combinaisons, les harmonies que vous voyez là avec cette photo?
Bah, décris-moi ça parce que nous on voit pas. Là.
Alors tu as le ciel qui est bleu avec le terrain de. Alors le terrain de quoi? Foot, baseball, le terrain de sport qui est vert clair et puis un petit peu de orange. Donc c'est pas mal, hein. C'est assez harmonieux ça. C'est pas des. Alors en général, quand t'as un peu d'orange et de bleu, c'est pas mal parce que c'est. Tes yeux, ils aiment bien, ça fait le.
Ouais.
C'est le. Ouais. C'est sur la roue de la couleur, c'est complémentaire.
Ouais.
Orange et bleu. Et alors un peu de vert, c'est à côté aussi. Donc je vais pas rentrer dans les détails de split complementary, tu vois. Quand tu trouves que quelque chose est beau. Aux yeux, au niveau de la couleur, il y a une raison derrière qui est assez scientifique. Hein. C'est parce que tes yeux, ils équilibrent les couleurs entre elles. Donc ça harmonise. Donc tu vois, là, tu vois un petit peu d'orange avec le bleu, c'est sympa.
Ah oui, c'est magnifique.
Et t'es aussi entrepreneur, t'es arrivée ce matin avec un paquet de
granulage. Ouais, bah, j'aimerais bien continuer ça, c'est un peu compliqué, mais à la fin de mes études d'ici, ça fait sens en fait. Parce qu'en fait, donc, j'ai fait un mémoire sur comment on mangeait avec la technologie, etc. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais l'habitude, enfin en France, de déjeuner avec des amis, etc. Je suis arrivée ici, je déjeunais toute seule. Donc j'ai commencé à déjeuner avec ma mère, enfin, sur FaceTime, avec les copines, parce que c'était l'heure du dîner pour eux, tu vois. Donc cette interaction-là, ça m'a jamais vraiment dérangée, mais il y avait une sorte de disruption comme ça. Ça gêne les gens d'avoir ce téléphone aujourd'hui à tabler, non? Ça fait partie de la norme. Tu te rappelles quand on allait au restaurant, on commençait à avoir nos téléphones sur la table. Il y a certains, non? Fallait l'éteindre. Ou est-ce que ça fait partie de la conversation? Tu vois, à l'époque où j'avais encore des date nights avec mon mari, tu vois, on parle et puis on regarde sur le téléphone, ça fait partie de la conversation. Donc il y a cette disruption-là. Que je trouvais intéressante et donc j'ai fait mes recherches là-dessus et puis juste tout de suite est arrivé à la fin où dans ma conclusion je dis j'ai besoin de faire un truc créatif mais je savais pas trop quoi. Mm-hmm. En fait moi c'était la création entrepreneuriale et donc j'ai commencé à faire ça et j'avais toujours ce truc avec la bouffe. Je suis arrivée aux États-Unis, J'avais pas tout de suite la carte verte parce que je n'étais pas mariée. J'ai commencé à avoir une carte rouge qui te permet de commencer à bosser. Je pouvais que bosser à la fac, donc avec mon visa F1, donc le visa étudiant. Et après, une fois que j'avais la carte rouge, j'ai pu bosser avant la carte verte. J'ai bossé dans les pâtisseries du coin ici. J'ai bossé en restauration. Donc j'ai découvert aussi ce monde de la restauration qui est difficile, mais ouais, que j'aurais jamais pu faire en France, tu vois. Je pense pas. Je me serais jamais lancée, puis qui est très cloisonnée presque. Et du coup, ouais, moi j'aime bien faire plein de trucs et j'ai du mal à mettre. Alors, j'aime pas le mot slasher, tu vois, les gens slash, ça, c'est. Pff, je sais même pas comment me définir. Donc aujourd'hui, je dis que je suis prof, tu vois. Et non, mais ça fait sens parce que tu vois, je vois mon père, il a fait la même chose en fait. Tu vois, il a fait lui, il a fait son truc d'ingénieur, machin truc. Et puis, il a repris des études aussi, il a fait la même chose, il est devenu prof. Et puis, même au Vietnam, au début, quand il est revenu faire sa retraite, il enseignait au MIT local, donc à l'Institut technologique de Ho Chi Minh Ville, un peu comme un fourdonné, tu vois. Et donc, moi, c'était pas dans le truc de redonner, c'était plutôt, ah, j'ai envie de faire sens. Et puis, je vois plein de copains maintenant qui veulent devenir prof. Coucou hein, aux potes qui font prof d'anglais, prof de français. J'en ai au moins un, deux, trois qui font ça, tu vois. On a eu des carrières un peu corporate, un peu classique. Ouais. Et puis, maintenant, t'es en recherche de sens, quoi. Parce que maintenant, c'est le nouveau truc. J'entendais la dernière fois, ce que j'aime bien écouter aussi quand je peux, les podcasts et tout, enfin, les émissions de radio. Et il y avait, c'était Ovidie qui parlait à Augustin Trapenard. Et elle, donc je découvre qu'elle est de la même génération que moi, mais l'année. Et elle disait, ouais, ben nous, on est de la génération 80, tu vois. On est une génération sans lettres. On n'est pas génération perdue, on n'est pas génération Y, on n'est pas génération X, ni Z, ni millennials. Et en fait, c'est la génération qui n'a pas fait grand-chose. Et en fait, c'est la génération un peu des gens paumés, quoi. Bon, je suis toujours admirative des gens qui sont nés après moi, qui ont fait des trucs, qui n'ont pas peur, tu vois, qui tentent des trucs. Et je vois, moi, ma génération, nous, on a une sorte de perfectionnisme presque. On a tellement peur de foirer qu'on ne fait pas. Et mon père m'avait toujours dit ça, parce que j'ai toujours voulu faire des choses entrepreneuriales. Je l'ai même fait, justement, avec cette défunte copine Élise et un autre copain David. On avait ce petit trio, on avait fait des soirées... Drink H2O, on faisait des soirées parisiennes de musique, de Broken Vibe, donc de musique de Londres, West London, et puis toujours ce côté entrepreneurial, organiser des soirées, même à perte, on s'en fiche, hein, mais c'était de travailler ensemble et tout. Mon père m'a toujours dit, parce qu'on voulait faire un café, tu vois, déjà il y a longtemps, et mon père me disait, mais tu sais, 50% du truc, c'est d'avoir les guts, quoi. C'est d'avoir les tripes de le faire. Et j'ai vu ça, en fait, aux States. C'est con, hein, mais on le dit et les gens disent « Ah, mais c'est hyper cliché. » Non, mais en fait, il y a un truc ici. Moi, je le vis parce que je le vis, moi, avec un Américain, par exemple, que lui a osé, alors qu'il bosse dans la finance, un truc hyper boring. Voilà, peu importe. Quand je suis arrivée, il a aussi monté sa petite boîte de hockey junior pour son fils qui fait du hockey. Et maintenant, Trevor, mon grand de 19 ans, il est à la fac où il a eu une sorte de bourse pour faire du hockey sur glace de manière universitaire. Alors, universitaire, ici, il faut comprendre semi-professionnel. Mm-hmm. Il est certes en Ligue 2, mais ici, ça compte vachement.
Et puis, plus tu montes au nord des États-Unis, plus la Ligue 2, c'est la Ligue 1 du Sud. Quoi.
Enfin, c'est... Voilà, c'est, bah, tu connais ça niveau, un petit peu ça, mais ici, c'est très important. Hein. Le hockey, c'est une religion. J'en ai mangé hein, des matchs de hockey dans le froid, je tombais malade, enceinte là-bas, enfin on s'en mange. Donc ici c'est très important, donc il a fait ça pour son fils justement comme un petit truc à part et puis bah, il m'a montré qu'on pouvait tout faire, il a fait lui-même son logo, son truc et puis il m'a dit vas-y quoi. En fait, moi, j'ai toujours eu ce blocage parce que je viens d'une mentalité, et je m'en rends compte parce que je parle aussi d'argent, tu vois, en te parlant, je m'en rends compte, ah ouais, je parle beaucoup de thunes. Mais parce qu'en fait, en France, on a ce blocage, enfin, je ne veux pas généraliser, mais on a un truc par rapport à l'argent qui fait qu'on n'ose pas faire. Ouais. En tout cas, moi, j'ai grandi avec cette culture de tu ne dépenses que ce que tu as. Moi, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup, j'ai jamais eu non plus, on n'était pas non plus à la rue. T'es un truc par rapport à ça, tu vois, le truc de, j'ai appris le truc de credit score ici. Moi, je suis hyper nulle, tu vois, je dépense que ce que j'ai. Parce que j'ai un credit score qui est minable parce que je dépense pas, tu vois. Mais il faut apprendre à jouer le jeu. Donc, je commence à comprendre ça. Et donc, entreprendre aux États-Unis, pour moi, ça fait sens. Et donc, ouais, j'ai commencé à faire ce truc-là. Et effectivement, moi, je transmets ma culture à travers ce que je dis, ce que je raconte à mon mari. Donc, lui est très sensible à ces sujets d'équité. Donc, j'ai appelé ma boîte Juste Tutu pour plein de raisons, juste justice. Parce qu'en travaillant dans la restauration, etc., j'ai vu comment on traitait les gens. Les trucs des pourboires aussi. J'adore rechercher l'histoire dans l'histoire, tu vois. Mm-hmm. L'histoire des pourboires, qui travaille aussi aujourd'hui. Et j'étais contente de repratiquer l'espagnol que j'avais perdu. Enfin, j'ai jamais vraiment fait espagnol. J'ai dû faire 2 années au CELSA d'espagnol. Mais en fait, c'est une qualité de parler espagnol dans restauration parce que tu as toute cette population aux US qui est là. Et puis, ça se refile les tuyaux aussi, tu vois. C'est aussi intelligent de savoir parler cette langue-là dans ce milieu-là. Là, on se rend compte avec les enfants. Moi, j'ai deux enfants, on en a déjà discuté, hein, deux enfants en bas âge aux États-Unis. Bah, la société a choisi pour moi, entre guillemets.
La société américaine est très en retard hein, là-dessus.
J'ai envie, moi, parfois, de retravailler. Moi, j'aimais bien travailler dans le milieu corporate, tu vois. Ça ne me dérangeait pas, j'aimais bien ce côté avec l'ambiance, avec les gens, avoir les fournitures gratos. Pourquoi pas voyager ? Peut-être c'est différent avec les enfants maintenant, mais j'aimais bien, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, la vie a fait
c'est moins une option, quoi.
C'est moins une option, je n'ai pas envie, c'est un truc plus stressant. Mon mari me dit, autant n'avoir qu'un seul qui soit malheureux dans son job, quoi. Donc, il m'a toujours dit, fais ce que tu as envie de faire, autant que tu sois happy, parce que... Ça sert à rien qu'on soit deux personnes malheureuses. Donc, pour l'instant, je tâtonne encore et puis je me donne beaucoup de temps pour certains parce que en France, t'as pas cartonné à 40 ans. Je prends mon temps, ça arrivera quand ça arrivera. Aux États-Unis, il n'y a pas cette deadline, justement, d'avoir réussi. Tu peux réussir à 40, 50, 60, peu importe. Tu vois, ici, c'est pas un problème. Et puis, tu sens l'encouragement, l'émulation quand tu dis que tu as fait des trucs entrepreneuriaux. Les gens sont assez solidaires. On te pousse vachement là-dedans. Super. Du coup, j'ai tenté, j'ai commencé par des pop-up de banh mi. C'était très intéressant à faire. Moi, je suis revenue à mes premiers amours d'organisation d'événements, de faire aussi la nourriture et puis travailler en famille. D'avoir ma mère qui vienne de France, venir nous aider pour le deuxième pop-up. Avoir la belle-mère, les enfants qui participent. Le premier, j'avais eu deux copines, une qui habite ici et une qui habite en France. Et donc, avoir ce truc-là. Donc, je suis toujours à la recherche de. Une excuse de travailler en collaboration. Alors que même si mon business, c'est une seule entité, j'ai toujours envie de travailler avec des gens. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce que juste tu, là, j'ai fait les granolas, là, assez récemment, après la pandémie est arrivée. Mais ça est arrivé parce que je faisais ça depuis un petit moment. J'ai eu du diabète pendant mes grossesses, ça a marché sur mon truc. Et puis, j'aime bien ce petit. Tu viens jamais les mains vides chez les gens. Tu vois, j'ai appris ça, un petit truc, un petit cadeau, peu importe. Et puis, j'offrais toujours ça à mes potes qui venaient, ou des gens quand j'allais chez les gens. Voilà, c'est de main en main. J'ai fait un site, bon, c'est vraiment... Parce qu'en fait, j'aime bien ce contact avec les gens, donc j'ai pas fait le truc où j'expédie, tu vois. Donc, j'avais des clients que j'allais déposer, là, dans le centre de Boston. Tac, tac, tac. Et donc, la pandémie est arrivée, les gens travaillaient moins, donc travaillaient à la maison, donc ça s'est un peu arrêté. Puis bon, la vie a fait que... Je n'espère pas de reprendre. Justitue, je l'ai fait en sorte que ce soit assez large autour de la bouffe, mais pas que. Donc, autour des événements. Peut-être du consulting aussi, parce que j'adore ça, parler avec les gens, conseiller, donner mes idées, puis surtout vendre mes idées, ce que j'en ai à la seconde. Et ça, c'est un truc, j'aimerais bien switcher à ça, petit à petit. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, je suis prof de fac, je fais de l'after school, je fais un peu du tutoring aussi. Il y a une grosse demande ici à Boston de profs de français, en fait. Donc cette année, j'ai accepté, au début, j'étais pas trop pour, parce que ça me prend du temps aussi. Mais en fait, j'aime bien ça, j'aime bien les enfants. Je suis sensible aux gens qui aiment la langue française, aux francophiles. Il y a une connexion qui se fait, tu vois.
En fait, j'ai l'impression que tu as recréé le type de communauté dans lequel tu as grandi, en fait, dans ta nouvelle vie.
Peut-être.
Enfin, tu
c'est
sais,
marrant, genre, oui, peut-être.
Parce que tu disais que... Bon, alors, tu avais tes copines qui étaient sénégalaises. Tu admirais un peu sur leur manière de vivre, tous les uns à côté des autres, parler la langue.
Peut-être, ouais.
D'avoir... la famille tout autour de toi et là tu travailles avec des gens que tu connais, tu travailles avec des gens que t'aimes, enfin tu as des amis de la famille.
Non, t'as peut-être raison. Ouais, c'est se recréer sa propre communauté et son chez soi. Ouais. Et puis moi
tu
j'adore.
Vachement rapidement, comme c'est impressionnant.
Rapidement, tu sais, ça fait bientôt 8 ans hein, que je suis là. Ouais. Mais je perds pas ce pont avec la France, tu vois. J'ai envie de faire un truc. Alors je sais pas, si c'est peut-être un jour revenir en France et faire quelque chose. Et puis d'avoir ces deux pieds à terre, entre guillemets, culturels. Donc je ne désespère pas d'avoir encore un lien avec la France. Je ne sais pas comment. Peut-être par un... Alors peut-être c'est simpliste de dire café. Alors le truc, j'aimerais bien... Tu sais, avec l'âge, je n'ai pas envie d'aller trop loin. Faire un truc dans cette communauté-là. Moi, j'aime bien maintenant Arlington, tu vois. C'est un peu...
Tu peux décrire Arlington pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors... C'est à 20 minutes de Boston, mais 20 minutes, c'est... Pour ici, c'est très peu. Donc, c'est genre ici, les Moulineaux, ouais. Quand tu habites à Paris. Parce que tu l'atteins avec le T, donc le métro. C'est une banlieue comme ça, sympa, très vert. pour moi qui arrive de France, une banlieue très, presque campagne, parce que c'est... Mais pour ici, c'est la banlieue très proche. Tu vois ? Parce que moi, j'ai plein d'étudiants qui
viennent du parc, tu vois toute la skyline de
ouais,
Boston.
De Robbins Farm, là, tu vois tout Boston. Et c'est vrai que de moins en moins, je vais à Boston. En fait, les gens, j'ai remarqué, vivent plus autour de Arlington, Cambridge, Somerville que Boston. Boston, c'est quand t'es plus jeune. J'ai encore des copains, tu vois, qui viennent d'avoir leur deuxième enfant, qui sont dans le centre, à South End. Donc, avec, c'est très mignon, hein. Mais ils n'en peuvent plus. C'est dur pour les enfants, donc ils déménagent.
J'ai remarqué en fait que je vais dans Boston quand j'ai de la visite en fait.
Parce que tu viens en tant que touriste.
Et ouais, ils veulent voir Boston, donc on va voir Boston.
Voilà. Quand t'as un concert,
ma vie, elle est à Cambridge.
Et même des restaurants, tu vois, j'ai fait beaucoup.
Super restos ici.
Ici, c'est plutôt Cambridge et Somerville. Somerville, c'est le Brooklyn de Boston. Si tu aimes le sport à Boston, c'est bon.
Ouais.
Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Bon, moi, je suis pas une grande sportive, mais j'aime bien le basket, aller voir le basket, ça me dérange pas. Le hockey, par défaut, ben, je suis obligée, je fais pas semblant, mais je suis solidaire, je fais mon travail de belle-mère. Ouais. Le basket, oui, j'aime bien. Après, t'as le baseball, c'est sympa comme expérience, c'est très long.
Ouais.
Est-ce que t'es déjà allé voir un match de baseball ?
Non.
4 heures.
Comme le football américain aussi, je trouve ça trop long.
On m'a dit que football, c'est très long, c'est football américain. J'ai jamais fait encore. Mais oui, il y a une culture du sport ici qui est énorme. Hein, Mais j'aime bien, par exemple, le halftime, tu vois, du football américain. Moi, j'aime bien les excuses pour manger et faire la fête. Donc, j'adore pas Thanksgiving, mais Friendsgiving quand on a l'opportunité de le faire. Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait là, ça fait presque 2 ans. Moi, j'adore les traditions. Donc, je prends les traditions. Par exemple, mon mari est catholique, donc hop, je prends les traditions catholiques, on s'est marié à l'église. Mmh. Bon.
J'aime bien, en fait, du coup, notre biculturalité pour ça, et toi, peut-être même presque triculturalité.
Ouais.
Parce que du coup, tu peux prendre ce que t'aimes
tu
bien.
T'es
pas obligé de tout prendre, mais tu peux prendre ce que t'aimes bien, ce qui te parle le plus un peu partout, et en faire ta culture familiale.
Ouais, c'est ça, t'as grandi. Puis c'est marrant parce que tu vois, ça, je le traduis à travers la bouffe beaucoup, tu vois. Parce que j'ai plein de collègues françaises, de profs de français qui cuisinent français. Moi, ça me dérange pas. Je fais des quiches, je fais des bourguignons, je fais des trucs, voilà. Mm-hmm. Parce que ma belle-mère ici adore la cuisine française. Mais là, je t'ai fait une soupe viette, le houtiou, une soupe viette avec des trucs. Et ça, effectivement, mes beaux-enfants, ils aiment bien parce que aussi qu'ils sont, alors eux, ils sont carton chinois. Leur mère est moitié, mais ils ont moins cette culture, ils ont un petit peu la culture chinoise, même si la mère ne parle pas, mais la grand-mère qui apporte des jok, donc des rice porridge, des soupes de riz. Donc, eux, ils ont grandi beaucoup avec le riz, les nouilles et tout. Eux, ça leur dérange pas que je vienne avec mon pho, tu vois, viette, avec mes soupes. Mm-hmm. Ah, ils adorent. Bon, moi, à mon petit niveau, je déteste le gaspillage alimentaire et tout. Donc, j'essaie de recycler un peu tout. Donc, ils me connaissent très bien à la maison. Je recycle des trucs pourris, machin. Donc, alors, j'ai fait toaster les graines. Donc, les gosses, ils ont pris, sont étouffés avec. Donc, t'imagines bien, un an et demi, béquette. Donc j'ai fait le risotto pumpkin. Bon, j'essaie de recycler. C'est ma mentalité aussi de pas de perte, tu vois. Bon, on a grandi comme ça. Donc voilà, ouais, triculturalité peut-être, ouais. Mais j'en suis fière et j'ai toujours été fière, tu vois.
Et tes enfants, du coup, tu les considères. Tu penses qu'ils seront quoi ? Enfin, tu vois, ils sont français, paumés aux US. Alors, sont américains avec une maman française. Comme toi, ou toi tu leur parles français, mais eux...
Ils seront ce qu'ils ont envie d'être, déjà. Ouais. Et puis, ils ont déjà les deux passeports, donc ça c'est bien, je pense. Alors mon mari m'a dit, serait temps que moi, je fasse le passeport américain, la citoyenneté américaine. Je ne l'ai pas encore faite. Je pense que c'est psychologique.
Ouais.
j'ai pourtant le passeport vietnamien, tu vois. Grâce à mes parents qui ont pu le avoir, j'ai ça. J'aime bien l'idée, je fantasme l'idée d'avoir 3 passeports. J'admirais toujours ces gens-là qui avaient 3 passeports.
Ça fait un peu espion, tu sais,
ouais,
avec ton beau bague.
Ouais, tu peux aller n'importe où comme tu veux et tout. Donc j'aime bien cette idée-là. Après, je me sens pas américaine, mais je suis peut-être la plus américaine de mes amis. Tu vois, depuis toujours, mes amis m'ont toujours dit...
Tes amis français, tu veux dire ?
Français, m'ont toujours dit, c'était toi la plus américaine, américanisée déjà. Mmh. J'avais toujours cet accent américain. J'étais toujours
t'as
tournée...
grandi finalement en fait avec cette culture.
Ouais, je suis tournée avec la culture américaine, la télé, les Friends, etc., les séries, la musique. Moi, j'apprenais l'anglais comme ça, par la série, par les séries télé, les films et surtout la musique. J'avais le Star Club, je piquais les Star Club parce que j'étais trop
Star
pauvre.
Club, on les achetait à 3, je me souviens.
Voilà, parce qu'on était trop pauvres pour les acheter, tu vois. Donc Star Club, les copines, donc je les photocopiais à les paroles, tu vois, tellement j'étais raffinée.
Mais oui, il y avait les fiches de paroles.
Oui, voilà, exactement. Ah, ouais, ça faisait sens quand je leur ai présenté Jay. Bah, en fait,
c'est ça choquait personne, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, t'étais déjà dans cette culture-là, et moi, je me serais jamais projetée. Enfin, si. J'ai vu une voyante.
Ah!
Il y a quelques. Avant de rencontrer Jay, justement, ouais. Dans une vague un petit peu comme ça de flou, tu sais, on aime bien se rattacher à des choses. Et j'avais vu une voyante qui est d'ailleurs venue à mon mariage faire ça pour mes.
Énorme! Que,
là. Et elle me parle de ma vie, de machin truc, ouais. Et puis elle me prédit, elle me dit oh, oui, vous allez être avec un anglo-saxon plus âgé.
Non mais.
Un truc comme ça.
Truc de ouf. Genre, tu l'avais jamais rencontré encore, lui, à l'époque?
Non, alors tu vois, du coup, moi, j'étais focalisée sur anglo-saxon.
Ah, du coup, tu cherchais le radar.
Mais alors que pas du tout, tu vois. Alors, j'étais là, mes potes anglo-saxons, qui sait. Et donc, ça s'est reconfirmé, tu vois.
Vous avez une grosse différence avec lui?
10 ans. On a 10 ans, ouais. Elle est née en 70. Et donc, et c'est drôle, tu vois, j'ai toujours gardé ça en tête. Et quand j'ai organisé donc, le mariage, parce que je fais aussi du wedding planning aussi.
Donc juste pour remettre les choses en perspective, tout à l'heure tu m'as dit que tu avais des enfants donc tu ne pouvais pas travailler, mais tu as quand même 72 jobs quoi, entre-temps.
Ouais, mais j'aime bien en fait, ça ne me dérange pas.
Non, mais c'est génial.
Toi-même tu sais, en fait le seul conseil que j'ai eu de Jay qui était déjà parent depuis longtemps, m'a dit tu dois avoir ta propre vie. Ça c'est le seul conseil qu'il m'ait donné, c'est-à-dire que ta vie c'est pas tes enfants. Voilà. Et moi j'adore les nouveaux challenges, les nouveaux trucs. Si je peux encore enseigner d'autres trucs, pourquoi pas. Si je peux faire du wedding planning, pourquoi pas. Donc, parce que j'ai une copine qui était venue à notre mariage en France et c'est un vrai événement. C'est-à-dire que c'était un événement sur 3 jours. Enfin, un truc assez sympa, tu vois. Pourtant, c'était un remariage pour Jay, hein, mais j'étais avec un broomzilla qui voulait un mariage en France. Alors,
pas un broomzilla, un groomzilla.
Groomzilla,
groomzilla. Parce que
broomzilla, c'est balai. Tu vois, j'arrive plus à parler français, tu sais. Groomzilla, ouais, groomzilla. C'est-à-dire qu'il était à fond, faut faire comme ça. Parce qu'il m'a dit, tu viens, au début, je vais juste faire une fête.
Ouais.
Tu vois, on est déjà mariés à Cambridge ici, pour les papiers.
Tu voulais pas faire un gros truc, quoi.
Et en fait, si, ça fait un super gros truc. Mariage à Saint-Sulpice, donc les gens qui sont
connaissent
Saint-Sulpice. Hein, donc, petite église de Paris, 6e. Par hasard, on est allé dans cette communauté parce que il me semblait avoir entendu qu'un ami avait un copain qui était proche de cette communauté, donc je les ai contactés. De fil en aiguille, ils avaient dit non, mais en fait, oui, ils nous ont accueillis bras ouverts, très très sympa.
Incroyable.
Et puis, donc incroyable d'avoir tout le monde. Mais comment t'as fait? Mais c'est pas, tu demandes les
le talent.
Mais non, mais tu demandes. Et puis voilà. Et puis ça, on a fait un truc sympa. Je te raconte encore parce que moi j'ai adoré. En fait, on nous dit toujours profite de ton mariage parce que ça passe tellement vite. Et j'ai adoré mon propre mariage, tu vois.
J'avais une dernière question.
Ah, vas-y.
Mais s'il y avait un conseil que tu pouvais te donner rétrospectivement par rapport au jour où tu l'as rencontré ou par rapport à peut-être tout ce qui t'est arrivé là, au cours des 8 dernières années par rapport à ton arrivée
Si t'as la pêche, après tout vient, tu vois.
J'ai l'impression que t'es quand même fondamentalement optimiste.
Ouais. Moi, je suis un peu trop, en fait. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, moi, je vois toujours le meilleur de tout. Donc,
des gens, des situations.
Ouais, des gens. Donc, mon mari, il me dit, mais fais gaffe, tu te fais arnaquer quand tu vends des trucs sur Internet. Moi, je suis assez optimiste et puis peut-être un peu naïve, mais ça me permet d'avancer, tu vois, de croire en la bonté des gens. Je me suis déjà fait arnaquer plein de fois. Mais effectivement, je vois toujours le bon côté des choses. Le verre, plus que rempli, je le vois énergisant. Tu vois, ça me remplit de vitamines.
Vivante, il fait trop froid. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Un grand, grand merci à Thuyen pour ce chouette moment passé ensemble. Je vais me faire un chocolat chaud et je vous propose d'écouter quelques indices sur la destination de la semaine prochaine.
Après, enfin, des fois, tu te dis comment tu dis à ta famille que tu repars encore, quoi. Quand ça fait déjà 2-3 fois que tu pars pour une période de 1 an, 6 mois, c'est compliqué de leur annoncer quand même. Donc Ouais, donc je ferai ça pour eux. Après, pour mon expérience personnelle, ouais, je repartirai. Après, je sais pas dans quel pays je repartirai finalement, puisque à ce moment-là, j'ai saisi des opportunités qui sont présentées pour les différents stages et jobs. En tout cas, je repartirai en Amérique latine, c'est sûr.
Voilà, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des étoiles quand vous en avez l'opportunité, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça y est, mon chocolat chaud est prêt, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.
Est-ce que t'as des questions pour moi avant qu'on se lance, ou...
Moi j'ai toujours des questions, ça va être moi l'intervieweuse là.
Vas-y, tu peux tenter ta chance.
Comment t'as commencé les podcasts ?
Hein ?
Comment t'as commencé les podcasts ?
Ah oui, t'es vraiment négative.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.